Bonjour à tous. Pendant la mobilisation, les meurtres continuent. Alors que la société civile demande au gouvernement d'agir contre les féminicides, une femme est morte hier soir à Perpignan sous les coups de son compagnon. Manifestation cet après-midi à Paris. Notre invité est membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. L'actualité du jour, c'est bien entendu le départ du Tour de France il y a quelques minutes à Bruxelles. Le rattrapage du bac la semaine prochaine sera-t-il touché par la grève des correcteurs ? Un nouveau séisme en Californie et la guerre d'Algérie hier soir au Festival d'Avignon. Le temps, attention aux orages, 20 départements en vigilance orange, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. Prévision de Jean-Michel Golinski dans 20 minutes.
France Inter.
Cette journée est classée orange, c'est le premier week-end des vacances scolaires, c'est même rouge en Ile-de-France. Bonjour Cyril Ardo.
Bonjour à tous.
Où en est-on à la mi-journée ?
Eh bien, des difficultés sur la 13 quand vous quittez Paris, vous dirigez vers la Normandie. Dans les Yvelines, 8 km de bouchons entre Orgeval et Chauffour-les-Bonnières, 15 à 20 minutes pour traverser cette difficulté. En région parisienne, c'est relativement fluide pour une journée classée rouge. Des coups de frein sur le périphérique extérieur au sud de Paris, entre Boulogne-Billancourt et Charenton-le-Pont. Et puis toujours au sud, sur la 86 intérieure, circulation en accordéon à hauteur de Rungis. La 6 au sud de Paris, quand vous allez vers le sud, ça bouchonne sur une dizaine de kilomètres au niveau de Vissous. Et puis on va passer bien plus au sud de la France à présent. Pour vous qui roulez sur l'autoroute A7 en direction de Marseille, quelques difficultés pour traverser Avignon. 12 kilomètres de bouchons et 22 minutes pour passer cette difficulté.
Cyril Ardo en direct du PC Mobilité de Radio France.
Le journal de 13h. Sur France Inter.
Une femme est donc morte hier soir, poignardée par son compagnon à Perpignan. Elle est au moins la 74e à perdre la vie de cette façon depuis le début de l'année en France, tuée par son conjoint ou son ex-conjoint. Depuis plusieurs jours, des associations, des artistes, des politiques demandent aux autorités de s'emparer de cette question. Avant d'évoquer la mobilisation direction Perpignan, Sébastien Berriot, que s'est-il passé hier soir ?
C'est une voisine alertée par le bruit qui a appelé les secours hier soir un petit peu avant 23h. Lorsque les pompiers arrivent dans l'appartement au premier étage de la résidence, ils découvrent le corps de la jeune femme de 32 ans, atteint de plusieurs coups de couteau. Sur place, il y a également le compagnon de la victime, un homme âgé d'une quarantaine d'années qui, lui, n'est pas blessé. Selon le parquet de Perpignan, c'est une dispute conjugale qui a dégénéré sur fond d'alcool. Arrêté et placé en garde à vue, le compagnon reconnaît avoir porté des coups de couteau. Selon les témoins des voisins, les disputes étaient récurrentes dans un milieu social très défavorisé. Le drame hier soir s'est déroulé en présence des enfants du couple. Trois enfants âgés entre 1 et 9 ans qui étaient dans l'appartement lorsque leur mère a été poignardée. Aucun d'entre eux n'a été blessé, mais tous les trois ont été transportés à l'hôpital en état de choc. Le père doit être présenté au parquet demain, avant certainement l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre. Perpignan, Sébastien Berriot, France Bleu Roussillon pour France Inter.
Des tribunes dans la presse, des pétitions en ligne, une proposition de loi au Sénat, des journaux qui racontent qui étaient ces femmes victimes pour ne pas les limiter à une simple statistique. Toute la société se mobilise. Voilà pourquoi le collectif Nous ne nous tairons plus organise une manifestation à 17h à Paris, place de la République. Bonjour Ernestine Ronet. Vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Vous dirigez aussi l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis. Un mot sur Perpignan dont on vient de parler. Notre correspondant parle d'un milieu social défavorisé, parle d'alcool, mais tous les milieux sociaux, sans exception, sont concernés par les féminicides.
Absolument, les statistiques indiquent ce que c'est dans tous les milieux sociaux, premier élément. Le deuxième, les conduites addictives, l'alcool, sont des désinhibiteurs, mais avant, il y avait de la violence, avant même la prise d'alcool. Donc de toute façon, il s'agit vraiment de violence.
Ernestine Ronet, vous manifesterez cet après-midi à Paris. Le slogan de cette manifestation, c'est « Nous ne nous tairons plus ». Ça veut dire quoi ? Que le silence ou la honte sont souvent les meilleurs alliés des hommes violents ? La honte des femmes battues ?
Il s'agit là des familles. Et les familles mettent en cause, finalement, le fait que... Qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'on arrive au féminicide. Donc, nous ne tairons plus. Bien sûr, on sait qu'il y a seulement 19% de femmes victimes de violences conjugales qui portent plainte. Ça veut dire qu'il y en a 81% qui sont à la porte. Et moi, je dis que lorsqu'une femme se présente dans un commissariat ou une gendarmerie, eh bien, il faut la croire. C'est la première chose. Même s'il s'agit de faits moins graves, il faut considérer qu'il y a du danger et il faut donc une attitude protectrice, une réponse pénale protectrice.
Précisément, vous dirigez à la faculté Paris 8 Saint-Denis une formation qui s'adresse aux magistrats, aux forces de l'ordre. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas encore été assez sensibilisés à ces questions ?
Qui s'adresse aussi aux travailleurs sociaux, aux médecins, c'est-à-dire à tous les professionnels. La loi de 2014 prévoit que tous les professionnels en lien avec les femmes victimes de violences soient formés. Et vous savez, ce qui veut dire qu'il ne faut pas laisser de trous. Et donc c'est tout le monde. Bien sûr, il faut former en priorité les forces de sécurité et les magistrats. Mais pas que. Il faut que tout le monde soit au courant. Et par exemple, dès l'école, il faudrait travailler sur cette question de domination des hommes sur les femmes pour faire reculer, bien sûr, ces stéréotypes.
Ça veut dire que les violences peuvent être aussi encouragées par une forme d'accoutumance culturelle, sociétale ?
Oui, c'est plutôt la société. Ce qui est formidable, qui est en train de bouger aujourd'hui, que je trouve magnifique, c'est que finalement, on passe de faits divers, pensés comme des faits divers, c'est-à-dire éparpillés, à des faits de société, pensés comme une responsabilité de la société. Et ça, ça change énormément, bien sûr, les points de vue.
Il faut aussi changer la façon d'en parler et les médias sont en train d'y participer. Par exemple, ne plus parler de crimes passionnels, de drames familiales. Ça aussi, ça a tendance à banaliser le drame.
Absolument. D'ailleurs, parfois on parle de différends familiales. Ça, c'est plutôt la gendarmerie et la police. C'est très important de voir qu'il ne s'agit pas d'un conflit, mais qu'il s'agit de violence où il y a un individu, l'agresseur, qui domine la victime et qui donc veut lui imposer son pouvoir, son contrôle. Ça, c'est très important de le penser et du coup, de se dire que c'est dangereux, même si c'est un fait moins grave qui est dénoncé. Il faut absolument le prendre au sérieux.
Il y a un autre élément à prendre en compte. Vous parliez de la façon d'entendre les victimes. Ces victimes, qu'est-ce qu'elles font quand elles veulent se mettre à l'abri ? C'est pas facile de partir de chez soi, a fortiori si on doit laisser les enfants ?
Alors, d'abord, il y a une possibilité pour que le mari quitte le domicile. La loi permet que ce soit le mari qui quitte le domicile.
C'est beaucoup mis en œuvre, ça ?
Alors, c'est insuffisamment mis en œuvre. La loi permet que même si j'ai pas porté plainte, je sois protégée. Ça s'appelle une ordonnance de protection. Et la loi permet que si je suis en grave danger, que j'ai un téléphone d'alerte. C'est-à-dire que la loi donne déjà des éléments. Maintenant, la question, c'est on l'applique ou on l'applique pas ? Et ce qu'il y a nouveau, à mon avis, qui va aider à ce que ça s'applique, c'est qu'il y a une prise de conscience de tout le monde.
Pour terminer, Ernestine René, vous avez écrit à diverses autorités politiques pour les rencontrer en tant que membre du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Vous avez eu un retour, vous attendez quelque chose de nos gouvernants ?
Nous avons demandé à être chargés d'avoir une mission donc pour étudier donc les féminicides et surtout pour faire des propositions positives. Bien sûr qu'on attend. Avec intérêt.
Merci beaucoup Ernestine René d'avoir été l'invitée de France Inter ce midi. Vous manifesterez parmi d'autres à 17h tout à l'heure, place de la République à Paris. Bonne journée.
Merci.
13h08, vous l'avez vécu en direct de 11h à midi sur France Inter avec Charline, Alex et Guillaume par Jupitour à Bruxelles. Jupitour pour la première étape du Tour, car ce n'est pas une blague belge, non. Le Tour de France part de Belgique et ce n'est toujours pas une blague. La première étape, ce sont 194 km entre Bruxelles et Bruxelles. Bonjour Fabrice Rigobert.
Bonjour.
À quoi va ressembler cette première étape Bruxelles-Bruxelles ?
C'est une étape quasiment plate de Bruxelles à Bruxelles en passant par Charleroi, par le Brabant flamand, la Flandre orientale, le Brabant flamand une nouvelle fois, avant de revenir du côté de la province du Hainaut et pour terminer avec Bruxelles, la capitale, après un petit court passage également dans le Brabant wallon. Bref, une belle visite de ces superbes routes avec le mur de Gramont emprunté autour des Flandres. Cette difficulté d'1,2 km à 7,8% de moyenne avec une véritable foule, un passage à 20%, la chapelle au sommet de cette côte qui domine les plaines alentours. Un fabuleux moment de vélo sur le Tour des Flandres et sur le Tour de France où il y a un public magnifique. Quatre coureurs sont actuellement en tête, dont les Belges Greg Van Avermaet et Maurice Van Avermaet, champion olympique, porteur du maillot jaune, également ancien porteur du maillot jaune qui porte aussi le dossard 111. 111, c'est le nombre de joueurs Tour en jaune d'Eddy Merckx, à qui l'on rend hommage 50 ans après son premier succès sur le Tour de France en 1969. Une très belle journée, très beau public, et donc on se rapproche du mur de Grammont à une dizaine de kilomètres maintenant.
Fabrice Rigobert, la Belgique, patrie d'Eddy Merckx, pays du vélo, pays des classiques flandriennes les plus prestigieuses. Ambiance de folie à Bruxelles, Fanny Lechevestrier.
Les grands départs du Tour, c'est toujours un grand bazar étonnant où coureurs et fans de vélo s'entremêlent dans une douce folie, mais sans jamais d'anicroche. Et là, sans surprise, la foule des grands jours était au rendez-vous ce midi. Un public très familial, souvent vêtu de maillots aux couleurs de son équipe préférée, presque aussi ému finalement que les coureurs, nous disent Patrick et Bart.
Je crois que ça fait juste partie de notre culture.
Il y a toujours de l'émotion, on a toujours la boule un petit peu dans le ventre, c'est un vrai spectacle.
Super gai.
L'émotion perceptible aussi bien sûr chez les coureurs. À 25 ans, Paul Ursula, entouré de toute sa famille, s'apprêtait à partir pour son tout premier tour.
Tour de France, c'est un rêve de gosse, c'est le Graal quand on est coureur cycliste. Ouais, c'est un rêve, après maintenant c'est pas une fin en soi, il va falloir être à la hauteur de l'événement.
Des coureurs qui se prêtent de bonne grâce au jeu des autographes. Mission accomplie pour Maël, un Breton venu exprès soutenir Warren Barguil, le tout nouveau champion de France.
Ouais, c'est de l'hyper émotion, c'est notre Breton, c'est une énergie folle, c'est un charisme de dingue, c'est une ambiance géniale, il fait super beau, il n'y a que le Tour pour donner ça, c'est trop cool.
Et ce grand bazar trop cool va durer durant 3 semaines. À Bruxelles, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Et à suivre aujourd'hui dans les 16e de finale de Wimbledon, 2 murs de Grammont tennistiques pour 2 Français. Tsonga sera face à Nadal et Pouille face à Federer. 4 personnes mises en examen hier soir. Un surveillant de lycée, sa compagne et 2 lycéens. Les 2 premiers sont suspectés d'avoir vendu des sujets de mathématiques du bac en Ile-de-France aux 2 autres. C'est cette affaire pour laquelle 18 personnes ont été entendues fin juin. Mais ce bac 2019 a surtout été marqué par les grèves des correcteurs, opposés aux réformes du ministre Blanquer est fâché par son supposé autoritarisme. Selon le ministère, 1% des copies n'ont pas été rendues corrigées et donc entre 35 et 40 000 élèves n'ont que des résultats provisoires. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Spécialiste éducation à France Inter. Sonia, une autre question se pose. Ce mouvement de grève inédit peut-il se poursuivre pour les oraux de rattrapage qui commencent lundi?
Oui, tout à fait. Les oraux de rattrapage risquent d'être perturbés. Ils sont prévus à partir de lundi 8h. Des professeurs sont convoqués, mais certains devront aussi à nouveau statuer dans les jurys pour prendre en compte les notes définitives des élèves et ils pourraient se remettre en grève. Comme le raconte Johan, professeur de littérature pour la filière L, il a rendu hier après-midi les 70 copies qu'il retenait et devait assurer le rattrapage.
Normalement lundi, nous devions faire passer les oraux de rattrapage. Or, on nous a dit oralement, c'est-à-dire que nous n'avons aucun papier, que nous étions reconvoqués pour un jury lundi. Parce qu'en fait, devant l'absence de près de 80% des notes, il n'y a pas eu de délibération possible. Donc on se demande si lundi, alors que nous avons cessé d'être grévistes, nous n'allons pas justement être retentés d'être en grève.
Les professeurs mobilisés n'ont pas arrêté de décision pour l'instant. Soit ils feront grève lundi, soit ils feront quand même passer les oraux. Mais ils seront très bienveillants, selon Jérémy, professeur d'histoire-géographie, convoqué lui aussi pour le rattrapage.
On peut pas appeler concrètement à surnoter, ça serait illégal. En revanche, effectivement, faire en sorte de valoriser autant que faire se peut, y compris dans l'entretien, les capacités de l'élève pour faire en sorte qu'il ait le maximum de points qui lui permettent d'avoir son bac. On est tous conscients de ce que les élèves ont vécu et on fera tout pour que nos élèves ne subissent pas trop de conséquences néfastes de cette mobilisation.
Vous le voyez, ce n'est pas fini, la pagaille risque de continuer.
Ouais, le président par intérim du Parti Les Républicains, Jean Leonetti, renvoie dos à dos le ministre et les grévistes. Jean Leonetti et les siens qui sont réunis en ce moment au siège de LR à Paris. Après un score très faible aux européennes, le parti organise une convention avec 200 cadres locaux. Élodie Forêt, ils veulent réfléchir aux valeurs fondamentales de la droite et du centre.
Prouver que les LR ne sont pas morts en réaffirmant les fondamentaux. À l'heure où l'on s'arrache nos élus et nos idées, c'est une initiative salutaire, applaudit une cadre du parti. Un tir de barrage qui certes manque encore une fois de concret, reconnaît un député, mais qui permet de se poser les bonnes questions, de donner aussi la parole aux cadres des fédérations qui ces derniers mois ont eu l'impression que leurs doutes n'avaient pas été pris en compte. Ils vont donc pouvoir amender ce texte avant sa publication en ligne mardi où il sera soumis aux corrections du peuple de droite. Un texte qui devrait servir de socle à l'élection du futur patron du parti en octobre. Loin d'être suffisant, reconnaît Christian Jacob, grand favori du scrutin pour qui le parti a pris beaucoup de retard. Écologie, bioéthique, rapport au progrès, sur tous ces sujets, le travail reste à faire.
L'actualité à l'étranger, 14 civils dont 7 enfants ont été tués dans la province d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie, la dernière zone du pays encore en guerre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'armée de Bachar el-Assad a bombardé un village alors qu'officiellement elle lutte contre un groupe djihadiste issu d'Al-Qaïda en Syrie. En Afghanistan, tir de mortier sur un marché dans le nord du pays, au moins 14 victimes. L'armée régulière accuse les talibans. Encore un séisme en Californie hier soir dans le sud de cet état américain. Un séisme majeur, 7,1 sur l'échelle de Richter. C'est très violent, 2 jours après un autre tremblement de terre. On ne signale toutefois pas de dégâts ou de blessés, mais Disneyland a fermé et une rencontre de baseball des Dodgers de Los Angeles a été brièvement interrompue. 1800 foyers sont privés d'électricité. Alors même si nous n'étions pas sur la zone la plus exposée en Californie, la secousse était particulièrement violente, rappelle Pierre-Yves Barre, sismologue à l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble.
Ce n'est pas sur la faille de San Andreas qui est celle pour laquelle on craint le Big One. C'est un système de failles qui est relié à la faille de San Andreas. C'est la zone pacifique qui remonte vers le nord-ouest à une vitesse de l'ordre de 5 cm par an. Sachant qu'un tremblement de terre comme celui qui a eu lieu cette nuit, ça correspond à un glissement soudain qui peut atteindre 3 mètres sur certains tronçons de faille. À 5 cm par an, on y arrive assez vite, hein, quelques dizaines d'années. Le Big One, on l'attend plutôt sur le tronçon sud de la Grande Faille qui passe juste à l'est de Los Angeles. Et la dernière fois qu'il a cassé sur un tronçon suffisamment grand pour générer un Big One, c'était en 1857. Je ne peux pas vous dire si c'est un phénomène précurseur de ce qui pourrait se passer sur la faille de San Andreas. La faille a eu le temps de se recharger, mais on ne sait pas dire combien de temps il reste avant le prochain.
Pierre-Yves Barre avec Rémi Brancato. C'était hier la fête nationale au Venezuela, un pays déchiré entre pro et anti-Maduro. Le même jour, l'ONU publiait un rapport accusant le gouvernement de violations très graves des droits de l'homme. Et hier, les deux camps ont défilé dans les rues des villes vénézuéliennes. D'un côté, les chavistes pour fêter l'indépendance. De l'autre, l'opposition. À Caracas, Benjamin Delisle.
Aux abords de l'avenue Los Próceres, une foule toute de rouge vêtue se presse pour observer le défilé militaire. Dans le ciel, des avions de chasse et des hélicoptères de combat se succèdent. Olga agite son drapeau à l'effigie de Nicolas Maduro avec dépit. Elle n'a toujours pas digéré le rapport des Nations Unies.
L'ONU n'est pas indépendante. Son rapport est biaisé, malheureusement, et il reproduit un document écrit par la droite. On ne peut pas dire que les bavures individuelles de policiers reflètent la ligne politique du gouvernement. Non, ce gouvernement est humaniste, il s'agit de cas isolés.
De l'autre côté de la ville, pas de fête nationale, mais des slogans contre les violations des droits de l'homme. Pour Anna, une opposante, ce rapport est une vraie victoire.
C'est l'occasion pour le reste du monde de savoir ce qui se passe au Venezuela. C'est un vrai soutien pour nous de la part d'une instance internationale reconnue et estimée.
Une chose est sûre, ce rapport ne suffira pas à mettre d'accord le gouvernement et ses opposants. Au contraire, comme toujours au Venezuela, on ne croit que ce que l'on veut bien voir. Caracas, Benjamin Delisle, RFI pour France Inter.
La Comédie Française et le Vieux Colombier à Paris et à présent le Festival d'Avignon pour accueillir une nouvelle pièce de théâtre consacrée à la guerre d'Algérie. C'est Quête scène d'Alexandra Badea sur cette nuit du 17 octobre 61 où des centaines d'Algériens ont été massacrés par la police à Paris. Hier soir, Stéphane Capron a assisté à la première.
Alexandra Badea est née en Roumanie. Elle a été naturalisée française en 2003 au cours d'une cérémonie républicaine dont elle a suivi à la lettre les recommandations.
Quand j'ai été naturalisée, on nous a dit, on était 50 étrangers, on nous a dit à partir de ce moment vous devez assumer l'histoire de ce pays avec ses moments de gloire et ses coins d'ombre. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans mon travail, c'est l'ombre. C'est ces endroits où le politique détruit l'intime. Je veux comprendre quelle est notre marge de résistance là-dedans et qu'est-ce qu'on peut conserver en intact dans notre intériorité.
Après avoir travaillé sur sur le massacre des tirailleurs sénégalais en 44 à Dakar. Elle s'attaque à la guerre d'Algérie.
Moi, j'ai pas peur des sujets tendus. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur ces points névralgiques. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, on a besoin de faire entendre ces récits. On a besoin de travailler sur une réconciliation. On a besoin de faire en sorte que le public, dans sa diversité, se reconnaisse sur ce qui se passe sur le plateau.
Le projet d'Alexandra Badea sur l'histoire de France comporte 3 volets. La dernière partie, en 2021, sera consacrée aux enfants de la Creuse et ses 2000 enfants déracinés de force de l'île de la Réunion dans les années 60 pour repeupler les départements français victimes de l'exode rural.
Quai de Seine au Festival d'Avignon jusqu'au 12 juillet, puis en novembre à la Colline à Paris. Le temps.
La météo avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Jean-Michel Golinski, Météo France.
Une large bande centrale du pays concernée par un risque d'orage cet après-midi, des limites de la Loire en allant vers la frontière allemande, le Jura, les Alpes, le Massif central et le Poitou-Charentes, des orages forts notamment du Massif central aux Alpes et vers le quart nord-est, et en particulier sur les 20 départements placés en vigilance orange. Plus au nord, ciel assez variable dans l'ensemble, et puis le soleil sera plus rayonnant sur les régions méridionales, avec des températures qui vont garder à peu près le même niveau qu'hier sur la plupart des régions, sauf dans le quart sud-ouest où elles vont perdre entre 4 et 6 degrés. Notez que la nuit prochaine, des orages forts vont éclater de l'est des Pyrénées au Massif central jusqu'aux Alpes et dans le quart sud-est. Demain, dans des températures en baisse dans la moitié nord du pays, le ciel sera plutôt gris près de la Manche et temporairement humide. Le temps sera voilé sur la façade atlantique et souvent orageux dans le centre-est et le sud-est.